Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Mahmoud Abbas était au Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Le président de l'autorité palestinienne y est venu pour dénoncer ce que Donald Trump appelle l'accord du siècle, le plan de paix américain pour régler le conflit israélo-palestinien, un plan fermement rejeté par la partie israélienne. Si ce plan est également rejeté par la Ligue arabe ou l'Organisation de coopération islamique, des voix moins catégoriques se sont fait entendre au sein même du monde arabe. L'Union européenne a également du mal à trouver une position commune. On est loin de la condamnation il y a 2 ans de la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. La cause palestinienne est-elle en recul? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Bedir Nabli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et fondateur de Chronique, Chronique avec un K, et Stéphanie Latabdallah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, politiste et chercheuse aux séries Sciences Po. Mahmoud Abbas était donc à New York aujourd'hui pour dénoncer le plan américain, et hier on a appris qu'il n'y aura pas de texte voté par le Conseil de sécurité de l'ONU, faute de soutien à la proposition palestinienne. Le texte reste en discussion, indique le négociateur palestinien Saeb Erekat, mais tout de même, est-ce que c'est pas un petit peu surprenant? Stéphanie Latabdallah.
Oui, c'est surprenant que le Conseil de sécurité ne souhaite pas au moins pouvoir être en accord avec le droit international qu'il a lui-même voté, c'est sûr. Mais en même temps, l'état du rapport de force est tellement disproportionné. Il y a eu des grosses pressions de l'administration américaine sur les pays qui ont voulu soutenir cette résolution.
Des menaces de sanctions financières, hein, pour le dire très, très clairement.
Voilà, donc on peut imaginer que c'est ce qui explique cette position. Après, effectivement, le Trump et les Israéliens, le gouvernement israélien actuel, s'appuient aussi sur cette forme de paralysie et ce vide, même en termes de propositions de la communauté internationale. On pourrait espérer, par exemple, que l'Europe ou que des acteurs comme ça reprennent l'initiative sur ce volet et sur ce vide, ils construisent aussi... Leur position extrêmement dommageable pour les Palestiniens.
Bedir Nabli.
Oui, en effet, incontestablement, c'est un dossier sur lequel l'administration Trump investit beaucoup. Alors, pour des raisons géopolitiques, de géopolitique régionale, mais aussi pour des raisons de politique intérieure, il faut garder à l'esprit, parce qu'on pourrait être assez surpris par le fait que les États-Unis soient aussi agressifs vis-à-vis, y compris d'alliés, pour les soutenir autour d'un plan vis-à-vis duquel, finalement, l'avenir des États-Unis, l'avenir de la région ne dépend pas véritablement. Mais c'est une année électorale aux États-Unis, et le noyau dur de l'électorat de Donald Trump réside dans cette communauté qui se compte en dizaines de millions de personnes, cette communauté étant les évangéliques. Mmh. Et pour les évangéliques, la question de l'existence et de la prédominance d'Israël est une question essentielle, parce qu'il y a une grille de lecture biblique de la question, d'une question qui est d'abord une question politique. Il ne voit pas dans le conflit israélo-palestinien une question de conflit de nationalisme peut-être aussi légitime l'un que l'autre. Non, ils y voient finalement une lecture biblique qui fait que cette question est primordiale et qu'ils ont réussi à l'imposer dans l'agenda diplomatique de Donald Trump, qui lui-même en réalité est assez ignorant de la question. Il s'y intéresse à peine, si ce n'est que à ses côtés, il a un neveu,
c'est plus qu'un neveu. C'est son gendre. C'est le mari de son épouse, de sa fille, pardon.
Qui, pour le
mari
coup,
de son épouse, c'est lui-même.
Qui, pour le coup, s'est investi directement et personnellement dans ce dossier. Il l'assume pleinement, il a élaboré, conçu le plan qui prévoit...
Alors, Stéphanie Latabdallah.
Alors, effectivement, il y a cet électorat évangélique
une lecture littérale de l'Ancien Testament.
Que voilà, Trump courtise énormément, mais il y a aussi autour de lui, dans l'administration même, qui ont concocté le plan, comme vous le disiez, des fervents soutiens des colonies, des gens qui ont financé les colonies. David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, a donné de l'argent en tant qu'avocat d'affaires, était président des Amis de Bethel, une colonie à côté de Ramallah. C'est également le cas pour la famille Kouchner avec la fondation Kouchner. Donc en fait, on a à la fois côté électoral les évangéliques et côté entourage, on a carrément, on peut dire, un lobby pro-colon. Et d'ailleurs, par exemple, dans la délégation qui est venue à Netanyahou lors de la présentation de ce fameux, ce qu'on ne peut pas appeler un plan de paix, il y avait d'ailleurs David Eliani, qui est le président du conseil de Yesha, qui est le conseil de toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie.
C'est ce qui explique que tout assez, ça assez... est très favorable aux demandes israéliennes et du Likoud. Hein. C'est pour
des
ça qu'on
colons,
l'explique.
Oui, même des colons, clairement des colons.
Oui. Au cours de cette présentation du plan dit de paix, ou dit d'accord du siècle par Donald Trump, il y a plusieurs ambassadeurs de pays du Golfe qui était là. Est-ce que c'est le signe, vous interpréteriez ça comme le signe d'un changement de priorité dans le monde arabe, Bedir Nabli, ou une partie du monde arabe ?
Non, c'est vrai que autant la position pro-israélienne de l'administration Trump finalement s'inscrit dans une forme de continuité. Il n'y a pas de rupture par rapport à la politique étrangère américaine. On est dans une forme de continuité, mais plus agressive, plus radicale. Là où il y a un véritable changement visible, c'est du côté finalement du monde arabe qui plus que jamais ne représente plus un bloc uni, homogène sur la question palestinienne, notamment du fait que dans l'agenda géostratégique d'un certain nombre de monarchies du Golfe, la priorité est de faire face à ce qui incarne selon eux la première menace, à savoir l'Iran. À partir du moment où ils sont convaincus, et l'Arabie Saoudite en tête, à partir du moment où ils sont convaincus que l'Iran représente une menace géopolitique, ils considèrent par conséquent que le reste passe au second plan, y compris la question du conflit israélo-palestinien, et que dès lors que Israël peut constituer un allié objectif, voire un allié stratégique, officiels dans leur confrontation directe ou indirecte avec l'Iran, eh bien, les Palestiniens auront par conséquent à payer le prix de cette reconfiguration des alliances.
Stéphanie Latabdallah, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Ça passe au second plan derrière le conflit avec l'Iran, quoi.
Oui, mais je voudrais apporter un petit bémol sur certains points. D'ailleurs, on a vu les présents, finalement, parmi ces pays du Golfe, on n'avait pas non plus les poids lourds du Golfe. L'Arabie Saoudite et le Qatar, on ne les avait pas, ils n'étaient pas là. Qui étaient les autres absents ? Les pays voisins, qui ont toujours été là lors des négociations de paix, et je pense à l'Égypte et à la Jordanie, ils n'étaient pas là ce jour-là. Par ailleurs, il y a quand même eu ce vote unanime à la Ligue arabe. Alors certes, c'est peut-être qu'une façade, une parole, mais quand même, ce vote implique qu'il n'y ait pas aucune coopération dans la mise en place de ce plan. Or, ce plan doit être financé par qui ? Par notamment les pays du Golfe, puisque les Américains mettent très peu d'argent dans ce plan. Sur les 50 milliards, sur 10 ans, il y a seulement 28 milliards qui iraient aux Palestiniens. Les autres sont censés aller à la Jordanie, au Liban et à l'Égypte afin qu'ils absorbent les réfugiés et de contribuer à leur développement. Et il y a 25 milliards qui sont en prêt. Les autres milliards sont censés être payés en grande partie par ces pays du Golfe. Donc si ils se sentent, on va dire, obligés par cette déclaration de la Ligue arabe, ils ne sont pas censés participer à ça. Alors on va voir, parce qu'effectivement, il y a les déclarations et le reste, mais enfin, quand même, c'est pas si clair que ça.
Bélier Nabli, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, les signaux sont pas univoques, parfois même ils sont contradictoires. Je rappellerai que on a eu droit quand même à des communiqués de presse officiels de l'Arabie Saoudite, notamment juste après l'annonce, en tout cas la présentation officielle du plan en question, se félicitant presque du plan, en tous les cas en manifestant une ouverture d'esprit vis-à-vis des perspectives avancées par le plan américain. Et tout cela, encore une fois, s'inscrivant dans ce qui se dessine sous nos yeux depuis quelques années maintenant, à savoir un axe géostratégique, Riyad, Tel Aviv, Washington, avec pour source de motivation l'identification de l'Iran comme ennemi. Et les derniers mois ont illustré finalement cette focalisation autour de l'Iran et le fait que les États-Unis eux-mêmes s'étaient alignés finalement en tout cas l'administration Trump par rapport à l'administration Obama, s'était alignée sur cette représentation de l'Iran après un certain nombre d'années où le gouvernement Netanyahou a martelé, y compris à l'ONU, cette idée suivant laquelle l'Iran représentait une menace, y compris nucléaire, pour le monde.
Je voudrais revenir sur les réactions effectivement qui ont suivi l'annonce de ce plan. On a aussi bien noté des réactions, disons, mesurées par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de pays qui pèsent lourd dans la région et qui ne sont pas directement dans l'axe stratégique israélo-saoudien. La Turquie, l'Égypte, qui est un pays quand même qui soutient traditionnellement les Palestiniens, on parlait de propositions sérieuses ou à étudier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un rejet catégorique, Stéphanie Latabdallah.
La Turquie a fermement condamné, pour le coup. La Turquie a pris une position ferme. En revanche, effectivement, l'Égypte a pris une position moins ferme. Bon, l'Égypte est financée à 1,6 milliard par an par les États-Unis, beaucoup sur des questions militaires. Ça peut effectivement jouer. Mais moi, je reviens sur le fait que ce plan, finalement, n'a pas beaucoup de légitimité. Bon, au regard du droit international, on est d'accord. Mais aussi, il est quelque part, il n'est pas grounded, comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a finalement, c'est un plan qui échange les droits politiques contre soi-disant un développement économique. Or, en termes économiques, il n'est pas solide parce qu'on ne sait pas qui va payer et qu'est-ce qui va être payé. Donc, à un moment donné, je pense que c'est quand même important de dire que ce plan, il est affirmé avec autant de force que finalement il est fragile dans sa réalisation même, et je pense qu'il faut quand même le dire.
Il est un petit peu hors sol, c'est ce que vous voulez dire?
Il est complètement hors sol.
Et les opinions arabes, qu'est-ce qu'elles en pensent, Béyan Nabli? Parce que, enfin, je vais peut-être employer un mot qui peut être choquant. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fatigue vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien dans la rue arabe?
Alors, votre question fait un peu écho à la réponse de ma collègue, et dans le sens où c'est le côté non crédible de ce plan qui fait qu'à un moment donné, à quoi bon réagir de manière très ferme? Il y a un problème de consistance et de crédibilité autour de ce plan. Et d'une certaine manière, ça ne sert à rien de faire front, de se mettre à son niveau d'une certaine manière. Et en même temps, on a quand même une administration de Trump qui croit, en tous les cas, qui fait montre d'une agressivité vis-à-vis de tous ceux qui pourraient émettre une quelconque critique. Donc, le fait de ne pas observer ou de ne pas s'opposer fermement contre ce plan s'explique de manière assez cohérente, parce que d'une part, il n'est pas crédible, et d'autre part, on risque de subir finalement une attaque, quelle que soit sa forme, de la part de l'administration Trump. S'agissant des opinions publiques arabes, je ne pense pas qu'on assiste à un recul de la cause palestinienne. Elle n'apparaît pas forcément visiblement, elle habite les consciences. Et à chaque fois que vous avez, par contre, un événement populaire, vous revoyez cette cause réapparaître avec force. Qu'il s'agisse du mouvement qui traverse l'Algérie depuis un certain nombre de mois, plus d'un an maintenant, eh bien, vous avez des drapeaux palestiniens. Le dernier président, le seul président de la République élu démocratiquement dans le monde arabe, à savoir le président de la République tunisienne, a été élu notamment sur la base d'un plan, d'un programme présidentiel qui était caractérisé par une adhésion, une profession de foi pro-palestinienne. Tout cela pour dire qu'encore une fois, ce n'est pas parce que la question n'est pas visible, qu'elle n'est pas affichée, qu'elle a disparu de la conscience générale. On s'en fout.
La population palestinienne, directement, Stéphanie Latabdallah, elle a évidemment dénoncé le plan. Il y a eu des manifestations le jour de la présentation, quelques heures, mais finalement, pas ce qu'on aurait pu attendre, pas de soulèvement généralisé. Comment vous l'interprétez?
Alors, on voit des réactions, on va dire, en décalé, à droite et à gauche, quand même, manifestations, il y a eu aussi quelques opérations, etc. Bon. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que la population palestinienne vit la situation que le plan entend légaliser, elle la vit de facto. Donc pour elle, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que ce que va faire ce plan, c'est en gros rajouter quelques ponts, quelques tunnels pour faciliter et légaliser ce qui déjà est à l'œuvre. Donc la situation d'apartheid que ce plan veut légaliser, elle existe sur le terrain. Donc pour les gens, jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. Même si légalement, si ce plan est adopté, il y aura, ça aura des conséquences importantes. Hein, par exemple, pour les Jérusalémites. C'est-à-dire que ceux qui se retrouveront de l'autre côté du mur, à peu près 140 000 personnes, se retrouveront probablement privés de leur statut de résident permanent de Jérusalem, alors que les autres deviendront plutôt des citoyens israéliens, les autres qui sont de l'autre côté. Donc ça a des conséquences, mais ça peut expliquer cela. Par ailleurs, il faut dire que toute manifestation ou toute forme d'action, on va dire, est dangereuse aussi.
Il faut quand même le dire. Sévèrement réprimé,
La grande marche du retour a fait 350 morts et un nombre très important de blessés. Donc, à un moment donné, aussi, les gens sont intelligents. Ils essayent de se dire quelle est la meilleure manière de réagir. Et ils vont pas aller forcément se faire tuer pour alors qu'ils n'ont pas dans leurs mains cette question.
Ce plan américain propose apparemment une solution à deux États, mais avec un État palestinien qui serait un État, on va le dire, croupion, hein, qui n'aurait aucun droit, aucune force de sécurité, par exemple. Enfin voilà, ce serait. Est-ce que ça veut dire que certains Palestiniens ne croient plus à cette solution à deux États? Est-ce que il y en a qui sont en train de réfléchir à finalement, si on est tous intégrés dans un seul et même État, on aura peut-être plus de poids, Bernard Nabli. Est-ce que les gens commencent à réfléchir à ça?
Non, c'est une hypothèse qui est posée. Un certain nombre de Palestiniens l'ont à l'esprit, tout en étant de fervents Palestiniens. Ce sont des patriotes qui n'écartent pas ni l'option de l'État indépendant, ni l'option d'un État binational, en vérité. Mais en même temps, c'est une forme de réalisme qui n'écartera pas le spectre d'un État d'apartheid, en fait, tout simplement.
Alors, la situation de fait aujourd'hui.
La dimension apartheid, elle est déjà une réalité pour un certain nombre de Palestiniens et d'Arabes israéliens, mais ça serait un élément structurant d'un hypothétique État binational. Je voudrais simplement ajouter un élément par rapport aux réactions, etc. On n'a rien dit sur la France
et l'Union européenne.
Vous aviez souligné le silence relatif ou les réactions ambivalentes du côté du monde arabe. Du côté français, on a aussi une relative rupture avec la ligne qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandienne qui avait abouti finalement à un soutien à la position palestinienne tendant à obtenir un État indépendant. On a eu comme réaction française, finalement, comment dire, pour reprendre la formule du communiqué de l'Élysée, oui, le président a salué les efforts de Donald Trump, salué ses efforts, alors même que le document en question était caractérisé par une forme de paresse intellectuelle, vu finalement l'inconsistance du document. Mais derrière, ça signifiait bien, encore une fois, un recul de la France quant à sa capacité et à sa volonté d'afficher une forme de singularité sur ce dossier et une forme d'alignement de fait sur l'administration américaine.
Stéphanie Latabdala, sur ces réactions un peu molle de la communauté européenne, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Mahmoud Abbas.
Non, juste par rapport à l'État binational, en effet, où le un État, deux États, on a à peu près aujourd'hui 25% de la population palestinienne, on va dire, qui est plutôt dans l'idée d'un État binational et de demander les mêmes droits dans un espace. Donc il y a une volonté de, notamment la nouvelle génération, de changer de paradigme de la lutte et de s'inscrire dans une lutte type droit civique, type lutte contre l'apartheid, etc. Avec, à mon avis, un très très long chemin. Donc il y a quand même ces deux choix. Maintenant, là, on n'est pas sur une solution à deux États. Hein. Ce qui est proposé, ce n'est pas deux États. Ce qui est proposé, ce sont...
c'est une domination d'un État sur l'autre.
Ce sont les mots contre les faits. Et le fait que ce soit, à la limite, cette histoire de... Si les Palestiniens acceptaient un État dans un tel cadre, ce serait finalement rendre service aux Israéliens. Pourquoi ? Puisque ça leur permettrait justement d'éviter de se faire poursuivre pour question d'apartheid. Et ça leur permettrait aussi de maintenir un État sioniste. Et pour cela, il faut que les Palestiniens disent « Ok, mais sinon, on est dans cette situation de facto ».
Merci Stéphanie Latabdala, merci Bélir Nabli d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnaud Lasseva à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Olivier Roux. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Washington DC,